Parlons donc un peu de Moïse ce matin. Moïse, qui est la grande figure du judaïsme. Il est celui qui reçoit tout de Dieu. Il apprend à le nommer par son nom. Il reçoit les 10 commandements sur le mont Sinaï. Moïse est un saint d'Israël. Il serait tentant de sacraliser à notre tour les grandes figures bibliques. Et nous le faisons quelquefois. D'en faire des héros de la foi, un peu ceux qui auraient un peu mieux réussi que nous, leur relation, leur vie avec Dieu. Eh bien, la Bible elle-même nous empêche de faire ça, de sacraliser les héros de l'Évangile et de la Bible. La Bible met un point d'honneur à désacraliser ses propres héros. Adam, Noé, Abraham, Jacob, Moïse, David, la liste est beaucoup plus longue. Vous prenez les biographies de toutes ces personnes, il y a toujours une ombre au tableau et quelquefois une ombre terrible. Le récit que nous venons de lire, cette vive altercation entre Moïse et le peuple, explique pourquoi Moïse n'a pas obtenu de Dieu l'autorisation d'entrer en terre promise. Le grand Moïse va mourir sur le mont Nebo, seul, puni pour avoir commis un sacrilège à Massa, Meriba. Je ne sais pas vous, mais à la première lecture, je trouve cette punition un peu lourde, un peu disproportionnée quand même. D'autant que le sacrilège en question ne saute pas vraiment aux yeux. Quelle faute a donc pu commettre Moïse pour payer si cher? Et nous qui prêchons le Dieu d'amour, le Dieu de la grâce et du salut, du pardon, comme nous l'avons annoncé ce matin, n'y a-t-il pas dans cette sévérité du jugement de Dieu quelque chose d'inquiétant pour nous, pour chacun? Si Moïse a échoué, qui passera l'épreuve du jugement de Dieu? Essayons d'y voir clair sur cette affaire de crise de la soif à Massa Meriba. Voici les faits très rapidement rapportés. Dieu a demandé à Moïse de parler au rocher. Mais vous l'avez vu, au lieu de se contenter de parler au rocher, Moïse a frappé 2 fois le rocher avec son bâton. L'eau a jailli, certes, mais Dieu n'est pas du tout content. Il fait savoir à Moïse et à Aaron que leur comportement est inacceptable, qu'ils ont manqué de foi, qu'ils n'entreront pas avec les fils d'Israël en terre promise. Il s'est donc passé quelque chose de grave à ce moment-là, à Massa Meriba, derrière l'apparente banalité de la scène. Quelque chose de grave s'est passé. C'est Dieu qui le dit. Et je trouve un peu important pour nous de découvrir ce qui est grave là-dedans, parce qu'il existe peut-être aussi dans nos vies, dans notre service chrétien. Derrière des comportements peut-être tout à fait anecdotiques, des choses, des pensées, des paroles ou des actes inacceptables aux yeux de Dieu. Et je crois que la réaction de Dieu à l'égard du geste de Moïse de frapper le rocher est une condamnation radicale de la violence. Je m'explique. Dieu a demandé à Moïse de parler au rocher, pas de le frapper. Pourquoi Moïse ajoute-t-il ce geste de violence contre le rocher? Même si le rocher a la tête dure, c'est pas une raison pour lui cogner dessus. Dieu a dit, parle au rocher. Parle. Simplement en croyant à la force de ta parole qui est la mienne. Et la vie serait tellement plus simple, plus belle, plus douce, avec des mots tels que « Nous avons soif, donne-nous à boire. » Prononcé avec foi et avec humilité, plutôt qu'avec des coups. C'est vrai pour le rocher, mais c'est vrai à plus forte raison pour nos relations, pour les relations humaines, dans l'Église, hors de l'Église. La violence ne sert à rien. Elle fait du mal. Elle fait mal. C'est tout. Je ferai une deuxième observation en rapport avec l'objet du délit. Le bâton de Moïse. Le bâton, dans la symbolique biblique, hein, c'est le sceptre de la tribu des Lévites. Il représente l'autorité spirituelle, celle de la présence de Dieu parmi le peuple. Au chapitre, un peu avant, au chapitre 17 du livre des Nombres, on nous raconte l'histoire de ce bâton d'Aaron, comment il s'était miraculeusement mis à germer et à porter des amandes. Le bâton des Lévites était donc signe de la présence de Dieu et de l'abondance, de la bénédiction de Dieu. Le bâton faisait partie aussi, il faut le citer, des objets assez rares à être intégrés à l'arche de l'Alliance, le coffre sacré, avec les tables de la loi et quelques autres, un peu de manne, etc. Comme pour rappeler au peuple croyant l'importance de quoi ? L'importance de l'institution. On n'est pas croyant tout seul, avec son Dieu, avec sa Bible dans son coin. Il y a un besoin d'institution, d'organisation, d'exercice du pouvoir. Même si nous autres protestants avons un problème avec l'exercice du pouvoir, même si nous avons rejeté la prêtrise de l'élitisme, le plus souvent au service d'elle-même, jalouse de ses privilèges. Nous avons très vite compris que, finalement, sans institution, sans organisation religieuse, l'Église n'avait pas grand avenir. Dès le XVIe siècle, nous l'avons compris. Et nous avons nommé des pasteurs. C'était le truc. Nous avons nommé des pasteurs. Des pasteurs qui, au cours de l'histoire, ont très vite retrouvé le chemin du pouvoir dans l'Église. Et les mouvements de réveil au XIXe siècle ont ceci de particulier, d'ailleurs dont les églises libres sont le premier fruit en France. Dès 1830, on commence à avoir des clusters libristes un peu partout. Les mouvements de réveil ont réagi contre cette professionnalisation, cette spoliation du pouvoir religieux par les pasteurs. Et aujourd'hui, le pouvoir n'est plus tenu par les pasteurs, il est tenu par les assemblées générales. Ah. Il paraît même qu'on peut renverser aujourd'hui la volonté de Dieu à la majorité d'une assemblée générale. Ça, c'est une blague, hein, vous pensez bien. Pas de très bon goût, peut-être. Le bâton d'Aaron, j'y reviens, est donc là pour nous rappeler d'une part, que l'exercice du pouvoir est nécessaire dans l'Église, et d'autre part, que celui qui le détient ne doit jamais oublier que ce pouvoir est un pouvoir de substitution, qu'il s'exerce dans l'Église au seul nom de Dieu, au seul nom du Christ, le chef de l'Église. Le pouvoir, le vrai, est donc quelque chose sur lequel on s'appuie comme on s'appuie sur un bâton, un pouvoir qui donne de la force, non seulement à celui qui l'exerce, le pouvoir, mais surtout, premièrement, à ceux qui sont placés sous son autorité. Le pouvoir dans l'Église, c'est un amandier en fleur. Ce n'est pas une trique avec laquelle on fracasse la tête des gens à coups de versets bibliques. Évidemment, on a trouvé d'autres bâtons pour battre aujourd'hui. Les gens ne viennent pas à l'Église pour être écrasés de culpabilité, pour subir une prédication du péché. Si vous êtes là, sœurs et frères, ce matin, n'est-ce pas parce que vous avez soif d'une parole qui vous permettra de faire le plein d'espérance, de joie, de paix, de salut? N'est-il pas vrai? Je vois derrière vos masques, je n'arrive pas bien à voir si c'est vrai ou pas vrai, hein, mais vous pouvez me faire des clins d'œil de temps en temps. Pour reprendre la parole de Paul, je ne saurais prêcher autre chose, vous prêcher autre chose que Christ crucifié. C'est-à-dire vous annoncer la grâce de Dieu, son pardon sans limite, sa bonté, sa patience, son amour. Et c'est en se saisissant de ces bénédictions-là que chacun réalisera un chemin personnel vers la sainteté, et non pas en ressassant sa culpabilité personnelle. Moïse aurait dû se contenter de prêcher que Dieu est une source d'eau vive, et non d'invectiver le peuple et de se défouler sur ce rocher. L'attitude de Moïse, qui consiste à juger et à insulter son peuple, bande de rebelles, ou l'attitude d'une église qui se passionnerait pour la sainteté spirituelle. Ah, on en rêve. En mesurant le bien et le mal au millimètre dans la vie de chaque membre de l'église, elle commettrait une faute grave, impardonnable même. Dieu nous appelle à annoncer au monde, dans le respect de tous, qu'il y a une source d'eau qui vivifie, qui restaure les forces de ceux qui sont épuisés, qui rend courage aux désespérés. C'est ce que Moïse n'avait pas bien compris ce jour-là. Le christianisme est une religion de la parole. C'est elle qui sauve et non les gestes plus ou moins maîtrisés. D'ailleurs, les protestants l'ont bien compris dans l'histoire que la prédication qui est l'annonce de la parole doit être placée au centre du culte. Les gestes sacramentels que sont le baptême, la scène que nous allons partager ensemble sont seconds et non premiers. Parce que seule la parole du Christ détient la puissance de déplacer des montagnes et de sauver le monde. Voilà pourquoi Moïse n'est pas entré en terre promise. Il n'a pas su s'effacer devant la grâce de Dieu. Ceci dit, ce n'est pas parce qu'il n'est pas entré que Dieu l'a laissé tomber. Il y a un très bel entretien avec Dieu sur le mont Nebo que je vous invite à revisiter. Si Moïse n'est pas entré en terre promise, il est entré dans le royaume de Dieu. Il y a une vraie bonne nouvelle dans ce récit. Malgré l'erreur de Moïse, l'eau va quand même couler et le peuple va quand même s'abreuver. La faute d'un seul n'est pas retombée sur la tête de tous. Ce jaillissement de l'eau sur le peuple me rassure d'ailleurs beaucoup en tant que prédicateur. Ça veut dire que même si je divague en vous parlant, même si je prêche des contre-vérités, Dieu vous bénira quand même. C'est ça que ça veut dire. Il m'est arrivé d'ailleurs de rencontrer des personnes à la sortie du culte, après une prédication, qui me remerciaient chaleureusement pour des paroles que je n'avais jamais prononcées. Qu'avait-il entendu dans ma prédication? Sans doute la voix d'un ange porteur d'eau. Ils avaient bu à satiété. Je n'y étais pour rien du tout. Amen, alléluia. C'est une belle image de la grâce, recevoir en abondance ce qui n'a même pas été donné, ou mal donné. Mais je voudrais terminer en revenant à l'essentiel. Il y a dans ce récit bien plus que Moïse. Il y a le rocher d'Horeb. Paul y a vu la présence vivifiante du Christ en personne, auprès du peuple. Et Jésus, dans son entretien avec la femme samaritaine au puits de Jacob, dira « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Cette eau deviendra en lui une source jaillissante, en vie éternelle. » À la croix, des gens s'approcheront et viendront frapper Jésus à la tête avec un roseau, comme Moïse a frappé le rocher. Peut-être nous aussi devons-nous réapprendre à parler avec le Christ au lieu de lui frapper sur la tête. Il ne sert à rien de nous agacer contre Dieu parce qu'il ne répond pas exactement à nos prières ou qu'il n'arrête pas l'injustice et le mal de cette déferlante sur la terre. Parlez-lui paisiblement et vous ferez une expérience profondément spirituelle. Entrez dans cette relation calme et confiante avec Dieu et vous découvrirez ce qu'est vraiment la prière. Elle est une relation d'être et de parole, et non une approche exigeante, païenne au fond, qui réclame et qui réduit finalement le Christ à la dimension de nos caprices. Parlons au Christ, avec foi, avec simplicité, humilité, amour, vérité, mais parlons. Il abreuvera nos vies de sa présence, celle qui, pour reprendre ses mots, jaillit jusque dans la vie éternelle. Amen.